Ah, je vais faire comme Michel. Bonjour à tous. Voilà, c'est très bien. Afin d'éviter des incidents comme on a connu au début du culte, je voudrais demander au responsable de la lumière de me mettre toute la lumière ici. Merci, elle y est. Parce que j'ai quelques petits problèmes de vision et cela me gênerait en effet pour lire les textes que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin. J'aimerais avec vous, ça fait peut-être pas mal de temps que la plupart d'entre vous nous voient, mon épouse et moi-même, fréquenter cette église le dimanche matin. Et j'aimerais vous dire deux mots concernant notre vie, notre témoignage. Il y a bientôt, j'ose pas dire, 65 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et mon épouse à peu près à la même date. Alors, ensemble, je crois que nous formons le couple doyen de cette église et je vous demanderai de respecter les cheveux blancs. Merci. Nous allons étudier ce matin le livre de Ruth. Nous allons entamer la méditation, l'étude de ce petit livre de Ruth qui est composé de 4 chapitres. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de compulser la Bible, ce livre de Ruth se trouve en 8e position à partir du début de la Bible. Il y a les 5 premiers livres qui forment le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui sont appelés dans d'autres langues, en d'autres pays, les 5 livres de Moïse. Puis ensuite, vous avez Josué, qui a été le successeur de Moïse et qui a été celui qui a conduit le peuple à prendre possession de la terre de Canaan. Et ensuite, vous avez le livre des juges. Et pourquoi des juges? Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Après le livre des juges arrive le livre de Ruth. Ruth, c'est le nom d'une femme. Avec Esther, une autre femme, c'est la seule femme dont le nom, ce sont les seules femmes dont le nom ait été donné à un livre de l'Ancien Testament. Son nom est mentionné à 12 reprises dans ce livre-là de Ruth, et il n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible, sauf dans la généalogie du Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au premier chapitre et au verset 5. Le mot Ruth dérive probablement d'un mot moabite ou hébreu signifiant amitié. L'auteur de ce livre n'est pas connu, mais le Talmud et la tradition juive pensent qu'il s'agit de Samuel comme son auteur. De même d'ailleurs que pour le livre des juges. Et cela correspond bien parce que Samuel a été le prophète qui a instauré la royauté en Israël en choisissant d'abord le roi Saül, puis ensuite, sur ordre de l'Éternel, de choisir son successeur, son remplaçant, David. Et lorsque on lit le livre de Ruth, on se rend compte que David est mentionné dans ce livre, mais à la fin du livre, totalement à la fin, au dernier verset, parce que Ruth est l'arrière-grand-mère de David. dans son mariage avec Boaz, elle a enfanté un enfant qui s'appelle Obed. Obed était le père d'Isaïe et Isaïe était le père de David. Voilà pourquoi Ruth se trouve être l'arrière-grand-mère de David. Donc il semble justifié que ce soit Samuel qui ait écrit ce livre. Avant d'entamer l'étude de ce livre, j'aimerais que nous lisions, pour ceux qui ont donc cherché la page, le dernier verset du livre des Juges. Le dernier verset du livre des Juges, au chapitre 21 et donc verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous avez bien retenu ces paroles ? Que pensez-vous de notre temps ? Y a-t-il un roi dans notre pays ? Chacun fait-il ce qu'il a envie de faire ? Oui, à peu près. Mais cette situation n'a rien amené de constructif. Car nous lisons dès le début de ce livre de Ruth ceci. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Chacun faisait ce qu'il voulait. Les paysans ne semaient pas. Mais il y avait aussi autre chose, c'est que l'Éternel n'avait pas envoyé de pluie. Et il y eut une famine dans le pays. Cependant, bien qu'aucun indice ne nous permette d'affirmer l'identité de l'auteur, ce récit, plein de charme, a certainement été rédigé juste avant ou pendant le règne de David, le roi, sur Israël, c'est-à-dire dans les années 1011 à 951 avant Jésus-Christ. Ça ne peut pas être plus tard, car le livre s'achève, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la naissance de David et ne mentionne pas Salomon, qui est le successeur de David. C'est donc dans cette période-là que ce livre a été écrit. Alors nous lisons maintenant ce chapitre premier, en commençant d'abord par les 5 premiers versets, puis nous continuerons la lecture un peu plus loin. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Arrêtons là un instant cette lecture. Nous avons là maintenant la situation géographique de l'événement. En dehors de Bethléem, de Juda, qui était une ville bien connue, parce que c'était la ville de David, n'est-ce pas ? En dehors de Bethléem, de Juda, Moab est la seule entité géographique mentionnée. On ne nous dit pas où Élimélec et sa famille se sont fixés, dans quelle ville ou quel village de Moab, mais seulement le pays dans son entité géographique, Moab. Ce peuple installé à l'est de la mer Morte était l'ennemi juré d'Israël. Il était issu de la relation incestueuse entre Lot, le neveu d'Abraham, et sa fille aînée, selon Genèse 19, verset 32. Il est dit « L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. » C'était donc l'ennemi juré d'Israël. Chaque chapitre de ce livre de Ruth peut avoir un titre qui le résume en commençant par la lettre R, comme Ruth, n'est-ce pas ? Le premier chapitre, on l'appellera la résolution ou la repentance. Nous le verrons un peu plus loin dans la lecture. Et puis ainsi de suite, je vous donnerai les titres au fur et à mesure que nous étudierons ce livre. Je voudrais faire une parenthèse ici. J'ai lu le commentaire qui a été fait par ce grand commentateur chrétien, John MacArthur. Vous savez qui il est ? C'est le préféré de Michel. Vous en souvenez ? Vous en souvenez certainement, hein ? Il le répète assez souvent. Oui. John MacArthur. Eh bien, John MacArthur a écrit ceci. Goethe, le grand écrivain allemand du XIXe siècle, aurait, paraît-il, décrit cette œuvre, cet ouvrage sans égal dans la littérature, comme l'œuvre miniature la plus belle et la plus complète qui soit. Alors, j'aurais voulu dire une chose, mais elle n'est pas là. J'ai dit cette chose sous le contrôle de Cécilia, mais elle n'est pas là. Vous savez que Cécilia est professeure d'allemand. Elle aurait pu confirmer ou infirmer la chose. Mais je suppose que c'est véridique, car on ne se permet pas, comme John MacArthur, d'imprimer un commentaire dans une Bible explicative sans avoir la certitude que ces paroles ont bien été écrites ou prononcées par Goethe, l'écrivain allemand. Maintenant, prenons tout le contexte de la famille. Il y a un homme, Élimélec. Ce nom veut dire « Mon Dieu est roi ». C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? « Mon Dieu est roi ». À côté de lui, son épouse, Naomi, qui veut dire « beauté ».« Mon Dieu est roi », il a une épouse qui est la beauté. Cela ne fait pas une juxtaposition avec la situation de l'Église envers Dieu, envers Jésus-Christ. Jésus est notre roi, fils de Dieu, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et l'Église qu'il prépare pour la présenter à son Père, la plus belle, la plus merveilleuse, la plus belle qui soit, la beauté. Et ce couple avait deux enfants. Deux garçons, un qui s'appelait Machlon et l'autre Kiljon. Et je vais vous donner le sens de ces deux noms. Machlon veut dire malade. Et Kiljon veut dire qui languit. Drôle de prénom, n'est-ce pas ? Pour un couple craignant Dieu, pour un couple ayant des noms si merveilleux, « Mon Dieu est mon roi, ma beauté. » Et il donne un nom de malade qui languit. Et cela bien avant que n'intervienne la famine dans le pays. Je vous ai donc dit que ce premier chapitre pourrait s'intituler « Résolution » ou « Repentance et conversion ». Alors poursuivons ce texte. Ils sont maintenant au pays de Moab. Ils étaient Éphratiens de Bethléem. Et Bethléem, vous le savez, cela veut dire la maison du pain. Et il n'y avait pas de pain. Il y avait la famine dans le pays. Ils ont quitté la maison du pain. Et nous verrons plus tard dans ce chapitre que lorsqu'ils ont quitté Bethléem, ils étaient dans l'abondance. Et malgré cela, ils ont quitté le pays de la promesse. Ce pays de la promesse duquel le Seigneur a fait dire par la bouche de Moïse, c'est un pays où coule le lait et le miel. La meilleure nourriture qui soit. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Ouf, c'est abrupt ça, n'est-ce pas? Ils viennent de s'installer dans le pays de Moab, fuyant le pays de la famine, en pensant peut-être avoir de quoi se nourrir, et puis voilà que Élimélec meurt. Quel drame pour cette femme. Et nous lisons, et Naomi resta avec ses deux fils. Ses deux fils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. 10 ans se sont écoulés depuis qu'ils ont quitté Bethléem jusqu'au moment où Machlon et Kiljon moururent eux aussi. Et voilà cette pauvre veuve, Naomi, qui perd d'abord son mari, qui perd en suivant ses deux fils, et elle reste veuve avec deux belles filles, veuves à leur tour. Veuve à leur tour. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Que pensez-vous que va faire Naomi? Elle va se révolter? Elle va se dire comment? Moi qui ai toujours honoré mon Dieu, et nous le savons parce que pendant ces 10 années-là, elle a instruit ses belles-filles concernant l'Éternel, le Dieu vivant et vrai. Naomi, il nous est dit au verset 6, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Le pain était revenu à Bethléem. Bethléem, la maison du pain. Il y avait donc une famine dans ce pays, plein de pain, cette famine, plus de pain, je veux dire, plus de pain, mais cette famine était un châtiment à cause de l'infidélité du peuple d'Israël. Qu'aurait dû faire Élimélec? S'humilier et chercher la face de Dieu. Bien des hommes de l'Ancien Testament ont fait cette expérience. Avant lui, c'est Joseph. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, Genèse 39, nous lisons un verset concernant Joseph. Et au verset 20 et 21 du chapitre 39. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Après lui, David a aussi reconnu son péché. Lisez le psaume 32. Et vous verrez qu'il confesse là tout son péché. Il reconnaît qu'il a péché et qu'il ne mérite pas le pardon de l'Éternel. Mais l'Éternel le lui accorde car il s'est repenti. Et après lui encore, c'est Daniel, le prophète. Dans son livre, Daniel dira « Le peuple a péché. Nous avons péché, dit-il. Nous avons péché et nous n'avons pas à recevoir le pardon de ces péchés. Mais nous te demandons pardon, Seigneur. Nous nous humilions devant ta face. » Élimélec ne l'a pas fait. Élimélec ne se tourne pas vers Dieu. Il oublie la promesse du Seigneur. Il s'en va avec toute sa famille, agissant comme il est dit en Jude 21, 25, chacun faisait ce qu'il voulait. Et il a fait cela. Il n'a pas regardé, il est parti au pays, dans le pays de l'ennemi. C'était une faute grave pour cette famille d'abandonner le peuple de Dieu, le pays de la promesse, pays où coule le lait et le miel, pour s'en aller au pays de Moab, un peuple païen, ennemi du seul vrai Dieu, postérité de Lot, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, le peuple de Dieu comprend tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui ont fait l'expérience de la repentance et de la nouvelle naissance. Comme l'a dit, je crois que c'est Pierre tout à l'heure, tout notre être est transformé, pas simplement une partie de notre être, mais notre être tout entier est transformé parce que nous avons reconnu que le Seigneur Jésus est mort pour nous sur la croix à notre place. Les enfants de Dieu ne peuvent pas marcher avec les enfants du diable, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 3, n'est-ce pas ? Voilà donc la situation. La maison de Dieu, la main de Dieu, pardon, s'est étendue contre cette famille désobéissante. Le chef de famille, Élimélec, le premier responsable de cette situation, est frappé par la mort. Dieu le punit. Cette épreuve très douloureuse ne semble pas avoir touché la conscience de Naomi, de la veuve. Naomi n'a pas encore compris. Elle n'a pas encore compris que son devoir de son devoir immédiat est de retourner à Bethléem. Les enfants sont encore jeunes. Elle aurait pu prendre ses deux enfants et repartir au pays. Elle ne l'a pas fait. Ses enfants ont grandi. Ils ont pris des femmes moabites, ils ont là aussi commis une désobéissance, un péché contre Dieu, car c'était interdit au peuple d'Israël de prendre des femmes étrangères pour leurs fils. Mais ils l'ont fait. Et voilà donc ces deux enfants qui naissent de dans cette situation. Et comme je vous l'ai dit, il s'appelle Machlon et Kiljon, malade et qui languit. Quel nom donné par leurs parents, n'est-ce pas? Attention aux noms que l'on donne à nos enfants. Souvent, on donne des noms un peu bizarres, on va chercher de ces noms qui n'ont vraiment aucun sens. Chers amis, chers frères et sœurs qui avaient des enfants, donnez-leur des noms qui ont un sens et qui peuvent leur apporter beaucoup de satisfaction par la suite en servant le Seigneur. Quel nom bizarre donné par leurs parents. Et cela dénotait déjà l'attitude défaitiste d'Élimélec et de Naomi avant même que n'arrive la famine dans le pays. Les deux enfants prennent comme épouse des femmes moabites, Orpa et Ruth. Orpa signifie, a deux sens, il a deux sens, le mot Orpa, il signifie dos ou jeunesse. Et puis le nom Ruth signifie amitié. Amitié. On sait que Ruth est le mari de Machlon. Cela est rapporté dans le chapitre 4 et au verset 10, que nous verrons un petit peu plus tard. Et pour des Israélites, c'était une faute très grave. Car dans Néhémie, par exemple, dans le livre de Néhémie au chapitre 13, Néhémie mentionne cela comme étant un crime d'épouser des femmes étrangères, et tout particulièrement de ce peuple ennemi juré d'Israël. C'était un crime. Par enfant du diable, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il s'agit d'une personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'est pas née de Dieu, qui n'a pas donné son cœur à Dieu. Peut-être entendez-vous la voix du Seigneur ce matin qui vous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et c'est en réponse que vous ferez, c'est à la réponse que vous ferez que Dieu fera de vous son fils ou non. Ce sera à vous de choisir. Ils ont habité là environ 10 ans, dans les campagnes de Moab. Et pendant toute cette période, silence radio de l'Éternel. On n'entend pas Dieu parler. Dieu ne parle pas à cette famine désobéissante. Il agit. Il a d'abord puni le responsable, le premier responsable, le père, qui est décédé. Il va punir maintenant les deux suivants, les fils. Alors, la main de Dieu s'appesantit encore. Et Naomi a le cœur brisé. Il nous est dit au verset 5, et Naomi resta privée de ses deux fils. Puis au verset 13, il nous est dit, attendriez-vous, elle parle à ses belles-filles qui voulaient l'accompagner vers le pays de Canaan. Elle leur dit, mais attendriez-vous pour cela que j'ai des fils de nouveau, alors que je ne connais pas d'homme pour l'instant? Est-ce que vous attendriez que j'ai à nouveau des fils, qu'ils grandissent, qu'ils soient assez âgés pour pouvoir les épouser, comme c'était la coutume normalement pour des veuves en Israël? Elle était dans l'amertume. Naomi comprend enfin qu'elle a eu tort de s'éloigner du peuple d'Israël, qu'elle a eu tort de quitter la maison de Bethléem, la maison du pain. Et immédiatement, elle se lève. Il nous est dit, puis elle se leva et elle partit. Et les deux belles filles la suivent. Mais elle se tourne vers ses belles-filles et par 4 fois dans ce passage, dans ce premier chapitre, par quatre fois, Naomi va dire à ses belles-filles, « Mais retournez chez vous et chez vos parents et chez vos dieux. » Et elle explique pourquoi, parce qu'elle n'a pas de successeur. Elle ne pourrait pas avoir d'enfants pour leur donner un nouveau mari à ces jeunes femmes. Elle apprend, nous dit le verset 6, elle apprend une bonne nouvelle venant du pays de Bethléem. Le Seigneur a visité son peuple et lui a donné du pain. Chers amis, vous qui peut-être n'avez pas encore compris que le Seigneur Jésus est le pain du ciel, le vrai pain du ciel, comme il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Ce pain-là nous a été donné. Dieu a visité la terre. Et vous savez que jusqu'au moment où le Seigneur Jésus est venu et les dernières paroles de l'Ancien Testament adressées par Dieu directement à l'un de ses prophètes, il s'est écoulé 4 siècles. Pendant 4 siècles, Dieu n'a pas parlé à cette humanité perdue. Et quand il y parle, c'est pour envoyer son propre Fils, Jésus-Christ, le vrai pain du ciel, celui qui donne la vie au monde. Elle apprend cette bonne nouvelle. Et vous savez, il y a un verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 25 et au verset 25, il est dit « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Évangile veut dire « bonne nouvelle ». Et c'est cela que les disciples ont annoncé, ont proclamé, ont répandu à partir de Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, comme il nous est dit dans l'Écriture. Ils sont allés annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le pain venu du ciel. Il s'est donné volontairement à la mort et à la mort de la croix pour nous. Alors, à l'annonce de cette bonne nouvelle, Naomi se lève et a décidé de revenir au pays. Elle a résolu de repartir au pays. Au départ, elles n'ont certainement pas pris un camion ou quelque chose comme ça pour faire le déménagement. Elles n'avaient certainement qu'un sac à dos. Quelques vêtements dans un linge noué pour pouvoir faire la route. Une route assez longue parce que pour aller de Moab jusqu'à Bethléem, à l'époque, il fallait aller à pied, il n'y avait pas d'autre moyen. Et donc, sur cette route longue et poussiéreuse, on voit partir ces 3 veuves, Naomi et ses 2 belles-filles. Mais Naomi insiste auprès de ses belles-filles pour les faire revenir au pays, à leur pays, vers leur Dieu. Et elles se mettent à pleurer devant la belle-mère, qu'elles ont aimée, qu'elles ont appréciée, car le passage, l'Écriture nous le dit, n'est-ce pas? Nous lisons à partir donc du verset 8, « Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez. » Je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous que pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent pour la deuxième fois, n'est-ce pas ? Et pleurèrent encore. Et là, Orpa, une des belles filles, il nous est dit, baisa sa belle-mère. Ça veut dire qu'elle la quitta. Elle l'a baisée et elle est partie dans son pays. Mais Ruth s'attacha à elle. Elle a continué. Ruth a continué le chemin avec la belle-mère. Puis la belle-mère s'arrête à nouveau. Il nous est dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme elle. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Quel magnifique témoignage de Ruth. Elle a appris, je vous l'ai dit, à l'école de Naomi, elle a appris la connaissance du Dieu véritable, du Dieu saint, du Dieu vivant. Et elle sait qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour elle. C'est pourquoi elle dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu habiteras, où tu demeureras, je demeurerai. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Quel merveilleux témoignage. Pouvons-nous dire cela de notre Dieu ? Que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Car Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La résolution de Naomi est prise, elle se leva, elle partit. Elle a bien sûr abdiqué devant l'insistance de sa belle-fille, de Ruth. Elle va dire, eh bien, puisque tu es finalement décidée, parce que à quatre reprises, elle lui a dit, retourne chez toi, retourne dans la maison de tes parents, chez ta mère, retourne dans ton pays, par quatre fois. Et Ruth a dit, que rien ne vienne me séparer de toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, ta demeure sera ma demeure. Pouvons-nous dire au Seigneur, Seigneur, c'est ta demeure que je cherche, c'est vers ta demeure que je veux me tourner, c'est là-bas que je veux aller. Il y a donc deux personnes, Orpa et Ruth. À toutes les deux, le même choix est proposé. Aujourd'hui, ce choix vous est aussi proposé. Vous entendez la voix de Dieu qui vous dit, choisis la vie afin que tu vives. Dans le livre du Deutéronome, Dieu dit à Moïse, voici, je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et c'est ce choix qu'a fait Ruth. Orpa a fait le mauvais choix. Elle est retournée vers ses dieux, vers ses idoles, vers son peuple, vers la mort. Ruth a choisi le Dieu vivant et vrai. Elle a fait, comme on dit habituellement, le bon choix. Elle a choisi de vivre pour l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et voilà donc que ces deux femmes arrivent, elles arrivent à Bethléem. Il nous est dit au verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, ce qui veut dire beauté, vous vous en souvenez. Ne m'appelez pas beauté. » Elle leur dit, « Appelez-moi Mara. » Et Mara veut dire amertume. Je suis dans l'amertume. Je suis dans l'affliction. Je suis dans la détresse. Et elle ajoute, « Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance. » Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand ils ont quitté le pays, ils étaient dans l'abondance. Il y avait la famine dans le pays, mais eux étaient d'une famille aisée du peuple d'Israël. Ils avaient de l'abondance. « J'étais dans l'abondance à mon départ, l'Éternel me ramène les mains vides. » « Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi ? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce récit, de ce passage que nous venons de méditer? Chaque être humain se trouve, tôt ou tard, placé devant un choix à faire. Le monde ou Jésus-Christ. Et surtout, pour ceux qui, peut-être comme vous ou quelqu'un parmi vous, est venu ce matin pour écouter la parole de Dieu. Là, vous êtes ce matin devant ce choix. Soit le monde, continuez avec le monde, et vous savez où va le monde, il va à sa perte, à sa destruction. Soit Jésus-Christ, qui a dit, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voulons-nous suivre le monde ? Comme Orpah, ou plutôt suivre Jésus-Christ comme Naomi. Il peut faire le bon choix, donc, mais il peut faire aussi le mauvais choix. Vous pouvez encore faire le bon choix, c'est-à-dire suivre Christ. Christ ne cesse de vous appeler. Et un verset de l'Écriture dans l'Apocalypse au chapitre 3 nous dit, c'est Jésus qui parle et qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, à la porte de votre cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ne voulez-vous pas avoir cette koinonia, communion avec le Seigneur? Excusez-moi, moi le grec, je ne sais pas le prononcer. Mais je sais dire la communion. Voulez-vous avoir cette communion avec le Seigneur? Peut-être entendez-vous maintenant cette parole du Seigneur qui dit, voilà, je frappe à la porte de ton cœur. Entends-tu? Veux-tu ouvrir ton cœur? Veux-tu me recevoir? Tu as le choix. Tu es libre. Et vous savez, Dieu n'est pas un tyran. Il ne viendra jamais forcer votre cœur. Il vous laissera entièrement libre de faire ce choix. Mais faites le bon choix. Ne faites pas comme Élimélec et sa famille qui ont fait le mauvais choix de quitter Bethléem, la maison du pain, pour aller au pays du désert de Moab. Mais faites le bon choix, comme le fit Ruth, de suivre sa belle-mère jusqu'à Bethléem, en terre de Juda, et arriver là au moment de la moisson des orges. Il y avait de l'orge, du pain, il y avait du blé, il y avait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était nécessaire pour la nourriture. Chers amis, si vous n'avez pas fait ce choix, le Seigneur vous parle ce matin. Le choix fut offert aussi à deux brigands sur la croix quand Jésus a été crucifié, entre deux brigands. Il y en avait un qui lui disait « Mais si tu es Dieu, sauve-toi et puis sauve-nous !» Et l'autre brigand le reprenait en disant « Nous, nous méritons, nous subissons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et se tournant vers Jésus, il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et il ne lui a pas dit « On va descendre tous les deux de la croix et on va se sauver. » Non, il fallait passer par la mort. Et en quelque sorte, la conversion, c'est de passer de cet état-là, de la mort, à la vie. Nous avons ce choix à faire. Jésus-Christ a dit dans un passage dans un village où il prêchait, où il parlait, il a dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Si vous voulez vraiment avoir la vie en Jésus-Christ, vous devez forcer votre cœur, votre conscience, votre esprit et dire au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi. » Tu as tout pouvoir pour cela. Tu l'as promis. Tu as dit, « Je me tiens à la porte, je frappe. Seigneur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre la porte. » Je vous ai cité tout à l'heure ce texte du Deutéronome où Moïse dit au peuple d'Israël, « De la part de l'Éternel, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. » C'est une promesse de l'Éternel. Je vous ai dit en préambule, ça fait presque 65 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et je n'ai jamais regretté. Avec mon épouse, nous avons traversé des moments de joie, beaucoup de joie, parce que nous avons une grande famille qui fait notre joie. Mais nous avons connu aussi la douleur extrême. Mais malgré cela, notre cœur est toujours resté attaché à notre Seigneur. Et nous vivons pour lui et pour sa gloire. Nous avons des cheveux blancs. Bientôt, quand le Seigneur le voudra, il nous rappellera à lui. Mais nous savons que notre place est là-haut, prête pour l'éternité. Alors, chers amis, pour terminer cette méditation, j'aimerais vous lire un cantique qui résume ce que je viens de vous dire. Je sais que ce chant, je pense, n'est pas connu, mais je voudrais vous lire les paroles de ce cantique. Et ce sera ma conclusion. Je vous laisse libre ensuite à vous de dire dans le fond de votre cœur au Seigneur, « Seigneur, Tu sais que je veux répondre à ton appel. Je veux répondre à cet appel de grâce, car j'entends ta main qui frappe à la porte de mon cœur. J'ai entendu beaucoup de choses sur toi, Seigneur. Mais ce matin, j'ai compris que tu es venu pour me sauver, moi, personnellement. Et si vous faites cette prière au Seigneur, sachez que le Seigneur vous recevra, il ouvrira son cœur et il vous prendra avec lui pour l'éternité. Alors ce cantique dit ceci. Je veux répondre au Dieu. C'est ta voix qui m'appelle. Je veux t'appartenir et te donner mon cœur. Mais je suis faible, hélas. Je crains d'être infidèle. Oh, prends pitié de moi. Viens m'affermir, Seigneur. Que de fois j'ai promis sans tenir ma promesse. Que de fois j'ai voulu me consacrer à toi et toujours j'ai senti ma coupable faiblesse qui m'empêchait de croire et de garder ta loi. Je ne t'ai pas loué par ma reconnaissance. Quand ta main si souvent a daigné me bénir, et je n'ai pas compris au jour de la souffrance pourquoi, dans ton amour, tu venais me punir. Les apôtres, les saints, ont connu la puissance. La puissance de ton divin esprit qui rend victorieux. Sur moi, répands aussi tes dons en abondance et vainqueur en Jésus, je vivrai pour les cieux. N'est-ce pas merveilleux de répondre de faire cette réponse à l'appel du Seigneur? Si vous l'avez fait, nous allons maintenant incliner nos têtes, nous allons terminer ce moment par la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier ce matin pour l'immense privilège que tu nous fais, à chacun d'entre nous, d'entendre ta voix dans le silence de notre cœur. Et s'il a fallu quelques paroles à haute voix pour assimiler, ne serait-ce qu'un peu, l'immensité de ton amour à notre égard, nous sommes confondus devant ce sacrifice parfait, accompli une fois pour toutes par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Seigneur, tu sais si quelqu'un a fait cette prière ce matin. S'il l'a fait, prends-le dans tes bras, Seigneur. Fais-lui comprendre qu'il est à toi et à toi pour toujours. Car c'est un contrat que nous passons avec toi, Seigneur. Et nous savons que de ton côté, il ne sera jamais rompu. Car nul ne peut nous ravir de ta main. Quelle grâce, Seigneur, de savoir cela. Et donne cette assurance à cette âme qui te cherche ce matin. Ô Seigneur, bénis le reste de cette journée. Raccompagne ton peuple. Fais-lui du bien. Et que ton nom soit exalté et loué d'éternité en éternité. Amen.